Info Club Sandwich. Salut tout le monde, nous sommes le mardi 30 juin 2026. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative préférée. Disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur notre site radiocampusamiens.fr. Je suis Sonia et je vais animer l'émission d'aujourd'hui. En première partie d'émission, Colline, tu reçois Mickaël Titran et Irwin Lelier pour parler du festival photo de Ham. Et en deuxième partie d'émission, on écoutera une chronique de Louis sur les inconnus. Côté musique, on s'écoute Band-Aid de Paris Jackson et Renny de Sal ou Sales, je ne sais pas comment on le prononce. Mais avant, Colline, je te laisse pour ton interview.
Merci Sonia, oui je reçois Mickaël Titran et Irwin Lelier, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous venez directement de Ham, où on va parler du festival photo qui est organisé jusqu'au 30 septembre,
c'est ça.
Il me semble.
Oui, exactement.
Alors est-ce que Irwin, tu peux nous parler, donc tu es le commissaire d'exposition, tu es le programmateur du festival.
Le coordinateur, oui.
Le coordinateur, est-ce que tu peux nous parler de ce festival qui a 9 ans, c'est ça?
C'est ça, alors le festival est organisé par la ville de Ham depuis 9 ans et c'est un festival qui est un festival en extérieur pour amener la culture et la photographie à moi et puis aux autres personnes qui viennent sur Ham. C'est pour éviter que ça soit en fermé et puis que les gens ne viennent pas parce qu'ils ont un petit peu de mal à aller vers la culture. Donc du coup, on avait décidé ça il y a quelques années. Moi, c'est la première année que je suis le coordinateur, mais ça fait déjà 8 ans que je suis sur le festival où je mène des ateliers avec mon Obscura Van, un camion qui est un laboratoire photo avec lequel je fais des ateliers avec le public collège-lycée et puis grand public. Et donc là, cette année, enfin l'année dernière, j'étais en résidence, c'était moi le photographe en résidence. Et puis cette année, ils m'ont confier la coordination. Donc j'ai invité, je me suis permis d'inviter Olivier Donard, que j'avais déjà invité quand j'étais coordinateur pour le festival photo de Longo, il y a quelques années.
Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ce photographe journaliste?
Alors Olivier, c'est un photographe journaliste qui est basé à Paris et qui travaille essentiellement en Irlande du Nord, où il y est depuis une vingtaine d'années. Il est surtout sur le conflit là-bas. Et quand je l'ai invité il y a quelques années, on en avait parlé. Et sa façon de travailler m'intéresse beaucoup et j'aime sa façon de voir un peu, d'aller voir les gens, de savoir un peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Et puis voilà, il s'intéresse vraiment à l'humain. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup à Ham, c'est qu'on aime aussi faire participer les Hamois à ce festival. Et du coup, naturellement, voilà, je l'ai invité à ça. Et puis je lui ai dit que Ham, ça ressemblait un peu à l'Irlande du Nord. Donc il était enchanté de venir.
Pour l'attirer à Ham. Mickaël, tu es un des photographes exposés. Il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez me les présenter un petit peu? Et dans la foulée, Mickaël, est-ce que tu peux aussi te présenter pour nos auditeurs et auditrices?
Très bien. Alors moi, je suis pas vraiment... Enfin, comment dire mon métier principal, c'est pas le photographe. Moi, je travaille essentiellement comme réalisateur et créateur vidéo pour le spectacle vivant, ici à Amiens et ailleurs. Et il se trouve que dans le cadre de ce travail, j'ai une pratique de la photographie depuis maintenant une vingtaine d'années. Et depuis quelques années, j'ai commencé à pratiquer la photographie pour la photographie, pas pour l'intégrer à des spectacles ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai commencé par faire des séries à ma façon, dont cette série qu'Irvine a bien voulu exposer dans son festival, qui est une série que j'ai faite à Bangkok au cours d'un voyage de 3 mois avec ma famille là-bas en 2022, c'était fin 2022.
Oui, ça s'appelle Le Chaos Calme, scène de rue à Bangkok.
C'est ça, exactement. C'est des images que j'ai... Alors ça tient pour le coup de la photographie de rue plus que de la photographie documentaire. Et c'est des images que j'ai faites en me promenant dans la ville, qui s'appelle Chaos Calme, parce qu'il se trouve qu'au moment où j'étais à Bangkok, il y avait une exposition là-bas, une grande expo dans leur musée d'art moderne qui s'appelait Chaos Calme et qui traitait de Bangkok. Et ça colle tout à fait à l'énergie de cette ville qui est à la fois extrêmement chaotique et qui, malgré tout, parvient à conserver une sorte de calme étrange, alors que par rapport à ce que même on peut voir à Paris, c'est très au-delà, la circulation, le bruit, tout est vraiment amplifié. x10 là-bas par rapport à ce qu'on connaît nous en France, mais en même temps ça garde une dimension assez calme et assez, assez tranquille. Voilà, donc j'ai repris ce nom pour la série parce que ça colle parfaitement et aux images et à ce que j'ai vu là-bas.
Très bien. Et Irvine, du coup, je te laisse présenter peut-être les autres photographes.
Oui, alors la thématique de cette année, c'est un regard sur la ville. Et donc, du coup, j'ai choisi des photographes qui ont chacun leur propre regard, avec une thématique à chaque fois qui se rejoint, mais qui est complètement différente. Donc, bah, Mickaël a parlé de sa série. Il y a aussi Marie-Pierre Dieterlé qui a fait une série sur la cité Gagarine. Donc, c'est une cité qui a été détruite en 2020, je crois. Et donc, elle est restée 3 ans sur place. C'est une cité assez connue à Ivry-sur-Seine, qui était une des premières une cité où on avait fait des grands immeubles, où il y avait l'eau chaude. Voilà, c'était vraiment la nouveauté. Et puis bah, cette cité, comme on l'a su après, ça s'est un peu dégradé assez rapidement. Et donc voilà, elle a suivi cette fin de vie de ce quartier en faisant des portraits des gens qui habitaient là-bas, et puis aussi de la destruction petit à petit des bâtiments. Moi, j'ai une attention particulière pour l'architecture parce que c'est mon métier de base. Donc, j'aime beaucoup l'architecture. Donc, son travail m'a aussi beaucoup interpellé. C'est pour ça que j'ai décidé de la choisir. Et puis après, on a aussi Elodie Arroyo qui a fait une série qui s'appelle « Hey, mademoiselle », alors qui est complètement différente des autres. Elle a fait une série sur les gens qui se font agresser dans la rue, alors que ce soit des agressions sexistes, voilà, des agressions sexuelles, un peu de tout ça, surtout des femmes. Et donc elle a mené son enquête, elle a trouvé des gens qui s'étaient fait agresser. C'est pas difficile à trouver, hein. Il y en a quand même beaucoup qui se font malheureusement interpeller dans la rue. Et donc elle a fait un portrait à chaque fois de cette personne, une vue aussi d'architecture. Donc on a un portrait, une vue d'architecture, et puis autour du portrait il y a le texte de présentation de la personne qui explique voilà, comment ça s'est passé, son agression. Voilà, donc ces quatre photographes, ça fait un beau mélange. Moi, je trouve ça très, très intéressant.
Il voilà. faut peut-être préciser que du coup, ce qui nous relie tous là, dans ce qu'a fait Irvine, c'est que le thème de l'édition de cette année, c'est regard sur la ville. Voilà, c'est ce qui relie, c'est toutes les propositions. C'est que tout ça a lieu dans la ville, ou c'est un regard sur la ville, sur une cité, sur... les pratiques, enfin, ce qui peut se passer de terrible dans les villes ou moi sur une mégalopole. Enfin, voilà.
Et justement, cette thématique, comment est-ce qu'elle a été choisie ?
Alors, c'est une thématique qui n'est pas choisie par moi, qui est choisie par la mairie de Ham. Et c'est à chaque fois une thématique qui va essayer de parler au plus près des habitants de Ham, en fait. Hein. Voilà, on essaye vraiment d'avoir... L'année dernière, c'était sur mon animal à moi. Donc il y avait un petit jeu de mots aussi. Donc ça, c'était la thématique qu'ils avaient choisie pour moi. Et donc voilà, c'est une thématique qui est imposée. Et le photographe doit, après, selon sa pratique, se faire à ça. Olivier, du coup, lui, il est resté quelques mois sur Ham. Il a été hébergé sur place. Et donc, il a pu rencontrer beaucoup de personnes. Et donc, comme tout le monde se connaît à Ham, ça a été assez facile pour lui de tisser un réseau. Et il a rencontré des personnes qui étaient... Parce que Ham, c'est une ville industrielle qui est en déclin. Et il n'y a plus beaucoup de travail là-bas. Mais voilà, c'est aussi... Ce n'est pas parce que l'histoire, elle s'est pas arrêtée, en fait, l'histoire là-bas. Donc, elle continue. Et il y a un héritage qui s'est fait. Il y a une école, l'école Flamme. C'est une école qui accueille des gens qui veulent faire de la métallurgie. Parce qu'à Ham, c'était une ville qui était axée sur la métallurgie. Et voilà, donc il a rencontré des gens aussi qui font passer le savoir-faire, en fait, de cette ville.
Et alors, donc, 4 photographes. Comment est-ce que tu les as choisis? Comment est-ce qu'elle se passe, votre collaboration, tous les deux?
Alors, j'ai choisi Olivier, qui m'a parlé de Marie-Pierre Dieterlé, parce qu'il connaissait Marie-Pierre. Naturellement, moi, après, j'ai choisi Mickaël, parce que Mickaël, c'est un vieil ami, on était au lycée ensemble. Donc c'est pour vous dire que c'est assez, assez vieux. Et on a déjà travaillé ensemble avec Mickaël, on a fait une série ensemble où on est parti en Europe centrale pendant à peu près un mois. Je pourrais t'en laisser en parler un petit peu si tu as envie. Et puis, Mickaël était dans l'agence Hans Luca et il connaît Elodie Arroyo, qui était aussi dans la même agence. Et donc, c'est lui qui m'a parlé d'Elodie. Voilà, donc c'est...
Le bouche à oreille.
Voilà, le bouche à oreille de photographe, ouais.
Et alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce travail que vous avez mené avec Irvine? Voilà, nous allons parler un peu de
ça. C'était ce qu'on a fait avec Irvine, qui était notre premier boulot ensemble photographique, parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets au fil des années, depuis qu'on se connaît. Mais là, on avait fait un travail sur donc l'Europe centrale. On était allé jusqu'à... En fait, à l'époque, Irving travaillait à Longo. Il était en résidence au Trait d'Union. Et du coup, Longo, c'est une ville qui est jumelée avec une ville en Pologne qui s'appelle Nałęczów. Et il se trouve qu'ils ont un vrai comité de jumelage. Enfin, c'est une relation très suivie au fil des années. Les gens de Nałęczów viennent à Longo et inversement. Et donc, pour sa dernière année de son festival photo là-bas, il avait proposé qu'on aille, nous, jusque Nałęczów en voiture et qu'on fasse une espèce de boucle qui nous a fait traverser l'Allemagne, la Pologne. Puis ensuite, on est passé par la Slovaquie, on est passé par la République tchèque, on est remonté vers la France. Et l'exposition qui a résulté de ça, c'était un mélange de mes photos à moi qui sont faites toujours sur ce modèle de la photo de rue. Et puis Irvin, lui, faisait des Polaroids où il travaillait la question architecturale. Et à la fin, on a fait une exposition qui mêlait nos deux visions de l'Europe centrale, qui traitait un peu de la, disons, comment dire, de la modernisation à marche forcée de l'Europe centrale. La Pologne est un pays qui a beaucoup changé, notamment architecturalement. Il y a énormément de travaux, etc. Donc on avait fait tout un travail sur ce point en mêlant nos regards qui sont assez différents dans la forme. On n'a pas du tout les mêmes topics, d'une certaine manière. Et puis là, c'était du coup, moi, ces images que là, j'avais fait en Thaïlande. J'étais revenu de Thaïlande avec énormément de matériaux. J'avais, je crois, 3500 à 4000 photos. Donc, je n'avais pas encore vraiment fait quelque chose. Et puis, du coup, quand Irvine m'a dit « Est-ce que tu aurais un truc ?» J'avais ces images et ça m'a donné l'occasion de m'y plonger vraiment, de faire un editing qui m'a permis de passer à 26 images et du coup, de clarifier un peu un point de vue a posteriori, parce que du coup, c'est la photo de rue, c'est vraiment des images qu'on fait en errant presque. Et du coup, on n'a pas forcément un sujet qu'on traite, etc. Et après... Après, on voit ce qui, dans les images, peut créer des passerelles et comment on peut faire des liens entre chacune de ces images et quel est peut-être le discours qui peut émerger de ces images.
Et donc, ces 26 photos que tu as sélectionnées vont être exposées dans la ville de Ham. C'est un peu le principe du festival, c'est d'exposer dans différents endroits de la ville.
Oui.
Comment ça se déroule ?
Alors, elles sont exposées. On a fait le vernissage vendredi dernier. Elles sont exposées dans la ville. Il y a un petit parcours qui est assez sympa à faire. Il y a le parc des Licours, la grille du collège de Victor Hugo, le centre social de Ham, la salle des fêtes, derrière la salle des fêtes, devant la mairie, où il y a à l'abbatiale aussi, et puis à la médiathèque.
Et pourquoi ce petit parcours ?
C'est un parcours qu'on fait à peu près tous les ans. Voilà, c'est les monuments les plus importants, ou en tout cas les bâtiments stratégiques de la ville, où on sait qu'il y a les Hamois s'y rendent, en tout cas assez régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment pour que ça soit vu un maximum.
Et donc c'est 99 photos, c'est ça, exposées ?
Oui, c'est ça, il y a 99 photos. Et au gris du collège, ce n'est pas encore fait, parce qu'au vernissage vendredi, tous les ans, depuis 4 ans maintenant, j'ai comment dire, je propose des polaroïdes aux gens qui viennent voir le vernissage et je leur prête un pola avec une cartouche, donc ils ont 8 photos, ça s'appelle Sortons Pola, et selon la thématique de l'année, bah, ils prennent en main cette thématique, ils l'ont, et puis ils vont travailler aussi de leur côté sur cette thématique. Ils ont 8 ou des fois 16 photos s'ils veulent refaire une deuxième cartouche. Donc on se retrouve dans l'été 2-3 fois pour voir un peu ensemble ce qu'ils ont fait, ce qui leur plaît ou pas, et puis de là, bah, on choisit ensemble les photos de chacun et puis on les scanne et on fait des photos sur bâche. On les tire. Voilà. Donc eux aussi peuvent participer au festival. C'est pas réservé qu'aux photographes et c'est aussi pour montrer que voilà, on n'est pas obligé d'être un professionnel pour faire des belles photos.
Et alors ça, c'est un atelier. La restitution, c'est le vendredi 9 octobre.
Voilà, exactement.
Ce festival, donc on l'a dit, ça se passe en extérieur, c'est jusqu'au 30 septembre. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ? Est-ce qu'il y a un petit guide qu'on peut avoir pour suivre ce parcours ?
Alors je vais essayer de mettre des plaquettes sur Amiens, un peu partout. Sinon, il y a le Facebook de la ville de Ham, sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations.
Eh ben, merci. Vous avez un petit mot pour donner envie aux personnes de venir voir ce parcours d'exposition
Alors, non seulement le festival Un regard sur la ville, c'est de très très belles photos, mais Ham aussi est une très belle ville à découvrir.
C'est un peu enlever les clichés que l'on peut avoir sur cette ville.
Exactement.
Moi, je l'ai découverte pour l'occasion et c'est vrai qu'Ham, par rapport à ce que je pouvais projeter sur cette ville, c'est très joli. Et en plus, faut dire aussi que le festival est quand même porté par une équipe municipale et puis des gens, la dame de la médiathèque, oui, et tout, qui sont aussi de vrais passionnés de photos et qui ont l'intelligence de penser que c'est pas parce qu'on est dans des zones un peu difficiles, etc., où l'accès à la culture est compliqué, qu'on peut pas tenter des trucs comme ça. Et apparemment, vu le monde qu'il y avait au vernissage vendredi, c'est une initiative qui prend pas mal. Et vraiment, âme, c'est charmant.
Oui, on a de la chance que le maire Éric Legrand aime la photo et c'est vraiment c'est vraiment très important pour eux de ce festival.
Et sur le public, sur les 9 ans que le festival existe, vous avez des retours un petit peu de ce qu'ils ont pensé, ils et elles pensaient ? Est-ce que vous avez un public de... Est-ce que vous pouvez un peu quantifier ce public ?
Oui, j'ai une centaine de personnes qui viennent à chaque fois et qui aussi participent à Sortons Polaroid. Enfin, j'en ai pas 100 qui viennent, qui participent à ça, parce que j'ai que 20 Polaroid à prêter. Mais en tout cas, voilà, c'est assez... On a un public... voilà. Et le 9 octobre, il y aura une conférence qui sera faite à la médiathèque.
À partir de 14h, voilà, ça va se passer. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite un très bon festival et puis peut-être à l'année prochaine pour la 10e édition.
Oui,
merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
You know I've spent a good few years just thinking, drinking about you. My head is filled with souvenirs. I'm
en direct de Radio Campus Amiens. On vient d'écouter Band-Aid de Paris Jackson. Et maintenant, on écoute une chronique de Louis sur Les Inconnus.
Le 23 juin, c'était les 42 ans du célèbre trio français Les Inconnus. Alors pour l'occasion, je vais parler un peu d'eux. Tout commence avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, fin des années 1970. Ils jouent dans la même pièce de théâtre et sympathisent. En 1982, grâce à une connaissance, Pascal Légitimus est engagé comme jeune humoriste dans l'émission Le Théâtre de Bouvard sur Antenne 2, une émission de sketch très populaire où se retrouvent les humoristes débutants ou inconnus. Il réussit alors à y faire entrer ses deux amis. Là-bas, il rencontre Seymour Bruxelles et Saïm, et se retrouve dans le même sketch. En 1984, il quitte cette émission en ayant acquis une certaine notoriété en raison du succès du Théâtre des Boulevards. Ils décident de poursuivre leur carrière ensemble à 5. Le groupe est officiellement créé le 23 juin 1984. Ils se nomment tout simplement Les 5. Ils tournent leur premier film dans la foulée, Le téléphone sonne toujours deux fois, sorti en 1985. Une comédie parodie de films noirs qui est un échec. C'est là que Saïm quitte la bande car il a l'impression de ne pas trouver sa place. Après ça, ils enchaînent les sketchs dans des petites salles sans grand succès et sortent en 1985 leur premier 45 tours, Magic Tango. En 1986, ils rencontrent Paul Landerman, qui deviendra par la suite leur manager. Afin d'éviter certains procès avec l'émission Théâtre Boulevard, le groupe Les 5 se renomme Les Inconnus. En 1987, ils débutent sur scène devant 46 spectateurs. Un an plus tard, ils font salle complète, notamment grâce au bouche à oreille. Ils présentent leur sketch phare, Télémagouille, en direct sur le plateau de Champs-Élysées de Michel Drucker, ce qui accroît sensiblement leur notoriété. En 1987 et 1988, grâce aux relations de Landerman, le 14 anime une émission sur la radio Europe 1, Les Inconnus de l'après-midi, de 15h30 à 17h avec Laurence Boccolini. À la fin de l'année 1988, Seymour Bruxelles le quitte, ayant l'impression de se faire exploiter par Paul Landerman. Les Inconnus ont en effet signé un contrat avec Landerman, touché 50% des droits d'auteur, ce qu'ils vont regretter par la suite. Après avoir tenté une carrière solo, Seymour Bruxelles devient biotechnicien et ostéopathe. En 1990, ils reviennent à la télévision grâce à Marie-France Vier, désormais directrice des variétés et divertissements d'Antenne 2, et lance la télé des Inconnus, en première partie de soirée sur la chaîne publique. Ils proposent une série de sketchs parodiant les émissions les plus en vogue du moment et les faits de société marquants. Leur premier sketch, Isabelle a les yeux bleus. C'est une parodie du groupe en vogue comme Partenaire particulier ou Indochine. L'émission est un succès phénoménal et réalise une grosse audience de 10 millions de téléspectateurs. Certains sketchs deviennent cultes et leurs expressions sont même reprises dans le langage courant. Ils sortent également deux albums studio, Bouler Vicifiant en 1991 et Lésoténifiant en 1992, et plusieurs singles. Ils continuent leurs sketchs sur scène et leurs chansons parodiques. Parmi celles-ci, Autonomie Passy sauf même le luxe de passer numéro 1 des ventes en 1991 pendant 4 semaines, ce qui est rare pour une chanson parodique. En 1993, alors qu'ils sont au sommet de leur gloire, ils décident de mettre l'émission en pause ayant l'impression d'être arrivés au bout d'un cycle. Ils continuent à jouer leur nouveau spectacle au Casino de Paris. C'est alors que Claude Berry leur propose d'écrire un film et qu'ils s'engagent à produire. Il sort en 1995, c'est un énorme succès populaire avec 7 millions d'entrées et obtient même en 1996 le César de la meilleure première œuvre. Ce film, vous le connaissez sûrement tous, c'est Les Trois Frères. C'est à ce moment-là, en raison de problèmes contractuels avec Paul Landerman, que les trios éclatent. Les Inconnus estiment que la part de Landerman qui a touché sur Les Trois Frères est injustement élevée. Or, il détient toujours les droits en ce qui concerne Les Inconnus et d'éventuels futurs films. Ils essaient de contourner cela en faisant leurs deux prochains films seulement avec Bernard Campan et Didier Bourdon. L'idée était qu'avec deux membres sur trois, le film ne peut pas être considéré comme une création des Inconnus et Paul Landerman ne peut donc pas prétendre toucher sa part. Landerman contexte cette interprétation et porte l'affaire en justice. Il finit par remporter le procès en 1999. En 2001, ayant réglé les différends avec Landerman, le trio se reforme et tourne un nouveau film, Les Rois Mages. La même année, paraît l'anthologie de leur émission télévisée et spectacle, la collection The Inconnu Story. Elle est vendue à plus de 1 million d'unités. En 2009, alors que chaque membre mène sa carrière solo, Pascal Légitimus annonce qu'ils vont se retrouver pour l'écriture d'un nouveau film. Ce n'est que le 20 juin 2012 que Pascal Légitimus annonce que le scénario des Trois Frères 2 est terminé. Le film devrait naître l'année suivante. Le scénario est écrit par Didier Bourdon et Bernard Campan et le tournage débuterait en mai 2013. Le trio sort alors Les Trois Frères Le Retour, le 12 février 2014. Malheureusement, l'accueil par les critiques est mauvais, ils jugent le film comme une mauvaise suite. Agacé par sa réaction négative, Légitimus annonce sur les réseaux sociaux que sera la dernière production de leur part sous le nom de Les Inconnus, alors qu'ils étaient en train de préparer un nouveau spectacle. Les années suivantes, ils continuent en effet chacun de leur côté comme ce fut le cas avant leur retour au grand écran. En juillet 2020, Pascal Légitimus annonce sur son compte Instagram le retour des Inconnus pour 2022, sans dévoiler davantage. En juillet 2021, Didier Bourdon annonce son nouvel album Le Bourdon, sorti le 11 juin 2021. Il signale qu'il reste en contact avec Bernard Campan et Pascal Légitimus, mais que pour le moment, rien n'est prévu concernant le retour des Inconnus. À noter que l'album contient une nouvelle version du tube Vice Versa des Inconnus, Vice Versa 2.0, avec Campan et Légitimus. Le 25 octobre 2021, dans l'émission Buzz TV de TV Magazine, Pascal Légitimus annonce le retour des Inconnus dans un nouveau film prévu pour 2022. En février 2022, les Inconnus annoncent trois projets. Un nouveau film, une émission télé spéciale Les Inconnus et un retour sur scène. En juin 2022, Didier Bourdon annonce qu'un troisième volet des Trois Frères est envisagé. Et voilà, c'était l'histoire du trio français. Et voilà, c'était l'histoire d'un des trios français les plus connus et aussi les seuls artistes à avoir remporté les grandes récompenses françaises dans quatre domaines artistiques différents. Le Molière pour le théâtre, le César pour le cinéma, le Sept d'Or pour la télévision et la Victoire de la musique pour la musique.
Merci Louis pour cette chronique. Et voilà, c'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte avec René de Celles ou Celles, je ne sais toujours pas comment on le prononce. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens. All the words I had to say, they don't mean